talmudique. Le roi David dormait peu. En fait, il somnolait, et tous les soirs à minuit, il se levait et composait des poèmes. Ainsi naquirent les psaumes. Mais comment savait-il qu'il était minuit ? Demande le Talmud. C'est que le vent du nord, à minuit précisément, commençait à souffler et caressait délicatement les cordes de la harpe, accrochées au-dessus de son lit. L'image est belle, mais par-delà sa beauté, ce texte du Talmud vient souligner l'importance de la musique dans la culture du royaume d'Israël antique, une importance qui ne s'est jamais démentie jusqu'à nos jours. D'exil en errance, de persécution en moments apaisés, la musique a accompagné le peuple juif avec une constance indéfectible et la langue hébraïque, langue liturgique de la prière de l'étude, en a toujours été le vecteur. Mais cette musique du peuple juif n'a pas évolué en vase clos. Elle a eu l'occasion de faire de nombreuses rencontres avec beaucoup d'autres musiques à travers le monde et en particulier celles d'Occident et de l'Europe chrétienne. Mais de quel dialogue entre les cultures cette musique a été la porte privilégiée ? Quelles rencontres a-t-elle suscité ? Quelle déformation, quelle transformation a-t-elle subi et lui a permis d'évoluer, de s'inventer à chaque fois de manière nouvelle et de se transmettre et de perdurer jusqu'à nos jours ? Quelles furent les influences en retour qu'elle eut sur les autres musiques ? Quelle influence croisée ? Comment ces musiques ont été un conservatoire et une transmission de l'hébreu ? C'est à ces questions que répond Hector Sabot dans son nouvel ouvrage intitulé « Histoire de voix hébraïque, anamorphose musicale croisée » qui vient de paraître aux éditions EMS. Hector Sabot, bonjour.
Bonjour Marc-Alain.
Hector Sabot, c'est un grand plaisir de vous recevoir à nouveau dans Talmudique. Je rappelle que vous êtes pianiste, organiste, claveciniste, chef d'orchestre, chef de chœur, compositeur et arrangeur et professeur titulaire en formation musicale au Conservatoire de Strasbourg. Nous vous avions reçu il y a 4 ans pour votre premier ouvrage « Voix hébraïque, un voyage dans la musique juive d'Occident ». On est tenté de vous demander, en hébreu, « Manishtana ». Quelle nouveauté apporte au lecteur ce nouvel ouvrage ? Ou différemment, pourquoi ce livre, Hector Sabot ?
Ce nouveau livre, il a attendu à peu près 2 ans et demi avant de commencer à mijoter dans ma tête. Le premier livre a été un événement important parce qu'il résumait... disons 20 ou 30 ans de travail, de recherche, de réflexion. Et quand le livre est sorti, j'ai eu des échos très positifs, naturellement, mais quelques lecteurs qui me disaient « c'est un peu technique, il faut être un tout petit peu musicien pour comprendre la totalité, ce serait bien que tu écrives quelque chose de plus accessible au grand public, aux mélomanes non avertis ». Et donc cette idée a fait son chemin. Et je me suis mis à réécrire un peu ce livre en évitant de me répéter naturellement, en abordant les choses un tout petit peu différemment et surtout en ajoutant beaucoup, beaucoup de nouveautés, des recherches, des découvertes que j'avais pu faire depuis la sortie de mes livres.
Vos réflexions portent d'abord sur la musique sacrée en général. Qu'est-ce que la musique sacrée, Hector Sabot ?
La musique sacrée, a priori, c'est une musique qui chante les prières, qui exprime la foi, qui exprime la spiritualité, et quelle qu'elle soit la religion ou la croyance dans laquelle elle se manifeste, c'est toujours quelque chose d'élevé, de spirituellement éloigné des choses matérielles. Et donc, toute la religion, plus ou moins, se sont retrouvées dans la musique pour ce type d'expression.
Mais on peut dire aussi que la musique, à un certain moment, pour les puissants, pour les rois et les princes, était plus une question non de spiritualité, mais de puissance politique, d'une certaine manière.
Oui, effectivement, il y a la particularité chrétienne qui a employé la musique comme un moyen, disons, d'attraction pour essayer d'attirer un maximum des fidèles et pour que les gens suivent, et pour montrer à ses pairs aussi qu'ils étaient les meilleurs, les plus forts, les plus beaux. Il n'y a pas que la musique, il y a l'architecture, la peinture, la sculpture, qui ont été des éléments importants. Et les artistes ont eu la chance d'avoir un champ de travail où ils pouvaient s'exprimer par des commandes très diverses. Et ça donnait, dans le cas de la musique, des créations extraordinairement belles, ce qu'on appelle aujourd'hui les créations artistiques.
C'est un petit peu différent pour la musique sacrée dans le judaïsme, puisque les juifs étaient la plupart du temps en exil et en errance. Quel sens donneriez-vous à l'expression « musique juive » Et plus précisément, pourquoi avez-vous choisi, dans vos deux ouvrages, de parler plutôt de voix hébraïque que de musique juive, Hector Sabot?
Oui, effectivement, la particularité juive est un peu différente de la des particularités chrétiennes, parce que la musique est apparue dans le judaïsme très tôt, d'après les sources dont on dispose. C'est après l'exil de Babylone, environ 500 ans avant l'ère chrétienne, que le retour des Hébreux à Jérusalem a permis la reconstruction du temple, du premier temple qui avait été détruit lors des assauts des Babyloniens qui ont amené les Hébreux en exil. Et donc la mise en place des lectures hebdomadaires pour les lectures publiques de la Bible se sont retrouvées avec une particularité qui est celle de chanter plutôt que de lire. La puissance de la musique s'est avérée un élément très important. Ezra, qui était le leader de l'époque, s'est entouré des musiciens sûrement, qui l'ont aidé à mettre en place tout un système des notations qui permettait de, pas seulement de lire, mais de chanter les textes bibliques. À partir de là, une très longue tradition musicale s'est développée, qui avait été précédée par la musique du premier temple. Le roi David et surtout son fils Salomon avaient mis en place un chœur et un grand orchestre pour accompagner les chants des prêtres, les déplacements et les prières. Et donc cette tradition a été reprise lors de la construction du deuxième temple, et la tradition musicale s'est perpétuée d'une certaine manière.
Ce qui est intéressant dans ce que vous semblez dire, c'est que la langue hébraïque a un rôle particulier, voire central, puisqu'on parle de la Bible qui est mise en musique. La Bible, elle est écrite en hébreu. Les prières hébraïques ont toujours été en hébreu, et donc c'est peut-être pour cela que vous parlez de voix hébraïque plutôt que de musique juive. Comment définiriez-vous la nature de la langue hébraïque qui est au cœur de la musique et que la musique a permis de transmettre de génération en génération et de conserver? On pourrait dire que la musique hébraïque est un conservatoire de la langue hébraïque. Comment définiriez-vous cette langue hébraïque, Hector Sabot?
La langue hébraïque qui, d'après les récits d'époque, était un peu oubliée, un peu perdue lors de ses 70 ans d'exil en Babylone, et devait être retrouvée. Il y avait une petite minorité qui avait gardé encore la pratique de cette langue, essentiellement pour la prière, pour l'étude et des textes sacrés. Et donc, quand ils ont commencé à la chanter, la particularité de la langue hébraïque, c'est qu'elle est très vocalique. Il y a beaucoup de voyelles, un peu comme l'italien, A, E, I, O, U. Mais j'ai constaté également qu'il y a deux mots qui reviennent le plus souvent dans les prières hébraïques. C'est les mots Alléluia et les mots Amen. Et si vous pensez bien, Alléluia, il y a presque toutes les voyelles. Il y a surtout beaucoup de L. Vous savez, quand on chante dans tous les pays du monde, on dit la, la, la.
Oui.
Et la 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 et alléluia, c'est très proche, c'est très musical. Et puis à amen, il y a les M et les N qui résonnent dans la bouche. Et donc avec les L, les M et les N, lamed, même nun, qui sont des lettres qui sont proches aussi bien en hébreu que dans les langues grecques et latines, c'est les sonorités musicales par excellence. Je pense que ça, c'est un élément qui a beaucoup contribué à développer l'essence musicale des lectures bibliques, c'est-à-dire du chant hébraïque.
Ivri, le mot hébreu veut dire le passage. L'hébreu, c'est le passeur. Et j'ai l'impression que l'hébreu, c'est une langue de passage d'une culture à une autre culture. Et dès qu'il y a cette volonté, ce désir de faire un pont entre les cultures, on est dans la dimension hébraïque du langage, et que la musique, précisément, et dans cette dimension de pouvoir faire le lien entre les cultures, Hector Sabot.
Effectivement, l'histoire du peuple juif, on pourrait dire qu'elle commence avec Abraham et ce passage du verbe « lahavor ». Et le passage, les voyages, les exils, tous ces mouvements perpétuels du peuple juif qui l'a amené à côtoyer d'autres peuples, à se mélanger et à échanger avec toutes les cultures environnantes, et à constituer des ponts permanents où la musique voyage justement, elle s'enrichit, elle n'est pas figée une fois pour toutes, et elle a un tronc, elle a une racine d'origine, mais elle évolue, elle se mélange, Et on a une multiplicité des musiques hébraïques, comme je les appelle, contrairement à une musique hébraïque qu'on pourrait considérer comme étant uniforme, singulière.
Ce qui est intéressant, si on définit la musique hébraïque comme étant n'importe quelle musique, mais avec l'hébreu au sens qu'on vient de définir, c'est-à-dire ce désir de dialogue et de passage entre les cultures, on peut imaginer que des musiques écrites pour l'Église, par exemple, pourraient être, ou du moins devenir des musiques juives ou hébraïques. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, Hector Sabot ?
Ces croisements, ces passerelles entre les musiques, comme je disais tout à l'heure, étaient un élément fondateur, un élément permanent. Et du coup, on trouve, par exemple, des psaumes chantés en latin, et la même mélodie est chantée également en hébreu à la même époque. Ça donne des couleurs différentes, ça donne des expressions un peu différentes, mais qu'est-ce qui différencie une même mélodie, les mêmes notes, le même rythme d'une langue à l'autre, c'est justement la couleur de la langue, l'articulation de ces voyelles et ces consonnes qui ont un goût, un ta'am, comme on dit, les ta'amim qui permettent de lire les textes bibliques, de les chanter, et qui est différent du latin et qui est différent d'une langue à l'autre. Quand on écoute de la musique arabe ou de la musique grecque ou de la musique latine, à chaque fois, on entend des couleurs différentes, des articulations différentes, même si la mélodie est la même.
Alors, je pensais à deux exemples, à l'exemple de Handel qui était chanté dans une certaine langue que les Hébreux ont repris en mettant une langue hébraïque, un texte en hébreu. Est-ce que vous pouvez nous donner cet exemple de Handel et un exemple qui vous est cher peut-être concernant Bach, Hector Sabot ?
Oui, tout à fait. Bon, Handel est un phénomène particulier. Handel était protestant, il était allemand au XVIIIe siècle. Sa production est très connue surtout pour les oratorios. C'est une forme chantée, c'est comme un opéra mais sans mise en scène. Et Handel, quand il a déménagé à Londres pour s'y installer pendant toute la dernière période de sa vie, il a fait un choix très particulier. La plupart de ses histoires qu'il raconte en musique sont bibliques et tirées de l'Ancien Testament. Et le premier opéra qu'il écrit quand il arrive à Londres, c'est Esther, par exemple, sur l'histoire biblique de la reine Esther. Puis un peu plus tard, il écrit sur Judas Maccabée, l'oratorio bien connu Judas Maccabée, où il y a un air choral que tout le monde connaît, ou presque, qui a été utilisé par Beethoven, justement, pour faire des variations pour violoncelle et piano. Et Judas Maccabée qui chante « Tim, tam, tadam, pam, tadadadam, pam, pam ». Et au XXe siècle, ces textes anglais à l'origine a été repris en Israël et avec des mots hébraïques Havanarima Nezvavuka, et c'est devenu un chant de Hanouka, c'est devenu un chant hébraïque, et les gens qui ne connaissent pas Handel pensent que c'est de la musique hébraïque, mais en fait c'est du Handel, un Allemand qui écrit en anglais.
On est bien dans les ponts et dans ce que vous appelez les anamorphoses musicales croisées. D'ailleurs, il faudra que vous nous précisiez ce que vous entendez par anamorphose musicale croisée. Là, on vient d'avoir un bon exemple avec Handel. Et je crois que vous voulez faire une expérience intéressante avec un psaume de Bach, le psaume 137. Racontez-nous, Hector Sabot.
Les anamorphoses, pourquoi cette image déformée qui renvoie à un miroir courbe, parce que j'ai toujours imaginé les musiques chrétiennes et les musiques juives se regarder en face, se reconnaître, mais voir leur image déformée. Comme on disait tout à l'heure, on reconnaît la mélodie, on reconnaît les rythmes, on reconnaît un air, mais les langues parlées sont différentes. Et pour répondre à votre question sur Bach, Bach était luthérien, bien entendu, protestant. Il a travaillé pratiquement toute sa vie pour les cultes protestants. Et il a écrit beaucoup des psaumes. Et parmi les psaumes qu'il a écrits, sous forme des chorales ou autres, il y a les psaumes 137, justement, « Al-Naharot Babel », sur les rives de Babylone, qui raconte cet exil dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a un projet qui m'a été proposé récemment à Strasbourg, où j'habite, le temple Saint-Thomas, l'église Saint-Thomas, qui est le temple principal des luthériens de Strasbourg, va fêter en 2025 les 150 ans de la naissance du docteur Albert Schweitzer. Et on m'a demandé, parce que je suis très proche de cette paroisse, l'inspecteur ecclésiastique m'a demandé si je pouvais imaginer un programme hébraïque avec notre ensemble Polyphonies hébraïques de Strasbourg pour célébrer la mémoire du docteur Albert Schweitzer. Et donc j'ai dit, mais bien sûr. Et j'ai eu la chance d'avoir connaissance d'un nombre, un certain nombre de documents attestant de l'amitié d'Albert Schweitzer avec des membres de la communauté juive de Strasbourg. Et donc, ces documents m'ont donné beaucoup d'idées pour construire tout un programme. Et parmi les choses que je vais faire chanter au chœur, il y aura ce psaume 137 qui parle justement de l'exil, de l'esclavage et de la soumission. Et c'est toutes les choses que Albert Schweitzer a combattues. Et je vais faire chanter donc Alna Arot Bavel, les psaumes 137. La grande surprise, il m'est venu à l'idée de prendre le choral de Bach Ambasserflussen Babylon, c'est-à-dire sur le rive de Babylone, et voir comment il a fait pour mettre en musique ces textes allemands. Et du coup, j'ai collé les textes hébraïques et j'ai vu que ça marche très très bien. Donc, je vais faire chanter mes choristes Bach en hébreu. Et je pense que ce sera peut-être une première.
Sixième mouvement du 14e quatuor à cordes en do dièse mineur de Beethoven, arrangé par Dimitri Mitropoulos, dirigé par Bernstein. Et on aura reconnu, à notre grande surprise, dans ce 14e quatuor de Beethoven, dans les cinq premières mesures, les premières notes de la célèbre mélodie du Kol Nidré que l'on chante à l'entrée de la fête de Kippour, véritable musique croisée, anamorphose réussie, pourrait-on dire. Comment, Hector Sabot, cette musique juive est entrée dans la partition de Beethoven?
Voilà, ça c'est une très belle histoire qui a été documentée par des musicologues américains. Il y a un certain nombre d'années, on a écouté la très belle version de Leonard Bernstein qui dirige le Philharmonique de Vienne. Et dans cet arrangement de Dimitri Mitropoulos, qui était les prédécesseurs de Bernstein à la direction de l'orchestre philharmonique de New York. Et donc, on entend en effet ce Kol Nidré et on se demande comment il est atterri chez Beethoven, qui n'avait a priori rien de juif. Beethoven était à Vienne à l'époque des Ulzer, les Chazan, les jeunes cantors de la nouvelle synagogue de Vienne. Et il avait pris l'habitude pendant de longues années de passer commande d'œuvres hébraïques à des compositeurs non juifs de la ville, parce que des compositeurs juifs, il y en avait très peu ou pas du tout. Il se comptait parmi les exceptions. Et donc, parmi ces compositeurs à qui il a fait appel pour justement composer une œuvre et honorer l'empereur d'Autriche lors de son anniversaire, il passait rendre visite aux trois cultes et accepté dans la ville, les catholiques, les protestants et les juifs, et chaque église, chaque paroisse, et rendait hommage à l'empereur par une création musicale. Et Beethoven, dans un premier temps, n'a pas dit non à Sulzer. Il a accepté un cahier des mélodies que Zulzer mettait à disposition des différents compositeurs qu'il sollicitait. Et peu de temps après, il a rendu ses cahiers, disant que malheureusement, il n'avait pas le temps, qu'il ne pouvait pas. Il a décliné l'offre qui a été faite immédiatement à Schubert. Mais ça, c'est une autre histoire. Et Schubert, à la même époque, a écrit donc une œuvre hébraïque, la seule œuvre hébraïque qui est un psaume. Le 92, et Beethoven, vraisemblablement, a aimé cette mélodie qu'il retrouvait dans les cahiers de Zulzer, la mélodie du Kol Nidre, et il l'a consciemment ou inconsciemment utilisé dans ses quatuors, on l'entend très bien, et c'est une très belle évocation. Donc une musique qui est traditionnelle, qui est a priori connue, parce que reprise par la totalité, pratiquement la totalité des musiciens de synagogue, et apparaît de cette manière dans un quatuor de Beethoven, et on est tous agréablement surpris.
Vous avez cité Sulzer, le cantor de Vienne, le grand cantor de Vienne, qui était aussi l'ami de Schubert, vous venez de le dire, et ce quatuor est un pont entre les trois hommes, car la légende veut, en tout cas c'est comme cela que je l'ai entendu, que ce soit ce quatuor de Beethoven que Schubert a précisément voulu entendre sur son lit de mort Hector Sabot.
Oui, ben c'est une très belle, je ne sais pas si c'est une anecdote ou c'est vrai, c'est fort possible. Et là, on peut imaginer très bien, on peut faire une hypothèse et dire, bon, finalement, ces gens-là parlaient des choses dont nous ne sommes pas au courant. Et si Schubert a collaboré en toute amitié avec Zulzer en composant une musique qui lui appartient sur un texte hébraïque dont Zulzer l'aurait aidé à mettre en musique, avec la musique du quatuor de Beethoven, on est tout à fait dans les ponts et ça circule dans tous les sens.
Ces sens, parfois, nous réservent de belles surprises. Et vous avez dit au début, quand je vous ai posé la question de quelle est la particularité de ce livre, c'est d'amener des nouveautés. Et il y a un chapitre qui est vraiment le centre de votre livre, qui a retenu particulièrement mon attention, qui est consacré à un personnage très énigmatique et très attachant, qui est plein d'inventivité, d'humour et de secret. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, un précurseur de Satie, plus la virtuosité. Il se nomme Charles Valentin Alcan et nous fait voyager de Vienne à Paris, au cœur des nouvelles synagogues parisiennes du 19e siècle. Qui est Charles Valentin Alcan, Hector Sabot? Et en quoi est-il un représentant intéressant des voix hébraïques et de leurs anamorphoses croisées?
Charles Valentin Alcan, c'est un personnage fascinant. Et c'est avant tout un pianiste parisien, né dans une famille juive originaire de la Lorraine. Son père était directeur, avait créé une école d'études hébraïques à Paris. Et Charles Valentin Alcan, de son vrai nom Morange, a eu cette éducation juive talmudique et il était un jeune homme très spirituel et très très au courant de ses racines, de sa culture. C'était un lecteur assidu des textes talmudiques et bibliques. Mais il était avant tout un grand virtuose. Il était comparé à l'égal de Chopin et de Liszt, des plus grands pianistes virtuoses de l'époque qui étaient ses amis. Donc à l'âge de 26 ans, ce qui est intéressant, lorsqu'il était considéré justement comme une star parmi les stars du piano parisien, il décide de quitter les salons et de consacrer tout son temps, selon ce qu'il confie à un ami allemand dans une lettre, il consacre tout son temps à mettre en musique tous les textes de la Bible et de l'Ancien Testament, tous les textes hébraïques de la Bible. Après 6 ans de réclusion, entre guillemets, et il abandonne les projets, on n'a trouvé aucune trace de ce projet, et il revient au salon et il commence à jouer de nouveau des concerts, il fait connaître les compositeurs classiques, et il écrit une œuvre, celle qui a attiré notre attention, une œuvre énigmatique, qui s'appelle justement « Marche funèbre pour un perroquet ».
Thank you.
As-tu déjeuné, Jaco ? On est extrêmement surpris et on écoute cette musique avec le sourire parce que c'est très très étonnant comme texte. Il y a trois phrases. As-tu déjeuné, Jaco ? Et la suite, c'est une question. Et de quoi ? Point d'interrogation. Et ensuite, une affirmation en un seul mot. A-A-H, point d'exclamation. Qu'est-ce que représente cette pièce, Hector Sabot ? Comment l'avez-vous découverte ? Et qu'est-ce que on peut en dire ? Elle est très belle, très intéressante. Je crois qu'il y a comme une sorte de secret qui est caché. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est fascinante aussi.
Elle est fascinante, elle est mystérieuse. Et il faut préciser qu'Alcan a été, avant de parler du perroquet, a été sollicité comme premier organiste titulaire de la nouvelle grande synagogue consistoriale de Paris, rue Notre-Dame de Nazareth. Il n'est pas resté longtemps, juste quelques mois, parce que le profil de ce poste n'était pas compatible avec ses attentes artistiques. Mais le temps qu'il est passé à la synagogue, il a eu l'occasion d'écrire deux pièces pour la synagogue, dans un style tout à fait traditionnel, en hébreu, pour les offices, etc. Et ce perroquet, là, qui nous parle de manière énigmatique, a éveillé en moi déjà des éclats de rire, parce que j'ai reconnu des blagues musicales, des moqueries, on pourrait dire, de la musique de Mozart, de la musique de Beethoven, on a entendu Rossini également. Mais ce texte énigmatique, « As-tu déjeuné, Jaco ?» m'a remis tout de suite dans un récit biblique renversé. Justement, on est de nouveau dans les anamorphoses. C'est une image déformée du récit biblique de Jacob et son frère Esaü, qui, selon le récit biblique, rentre de la chasse affamé, parce qu'il n'a rien chassé ces jours-là, et demande à son frère Jacob, qui est en train de cuisiner des lentilles, de lui donner à manger parce qu'il a très faim. Et c'est à ce moment-là qu'il négocie les droits d'aînesse avec son frère et il sera plus tard béni par son père Isaac avec la complicité de sa mère. Donc cette histoire pose la question « As-tu déjeuné, Jaco ?» Et la Bible dit « As-tu déjeuné, Esaü ?» Et de quoi ? C'est la deuxième question. Alors pourquoi une question répond à une autre question ? Et les gens qui connaissent un peu l'humour juif savent que un juif ne répond jamais à une question par une réponse, mais par une deuxième question. Et enfin, en troisième lieu, la grande réponse « Ah !» qui est une réponse qui veut tout dire et ne rien dire, c'est, on pourrait dire, le mystère de la vie, les comment et les pourquoi.
Pour conclure, on ne peut pas bien évidemment reprendre tout ce que vous dites dans votre ouvrage qui est absolument passionnant. Il y a un dernier point qui doit être mentionné, c'est le fait qu'il y a des musiques de films à thème juif composées par des compositeurs non juifs. Quel est le langage de ces musiques ? Comment s'inscrit-il dans le langage des voix hébraïques ? Hector Sabot, et merci de donner quelques exemples.
J'ai trouvé parmi les films les plus connus Exodus, un film de 1960, composé par Ernest Sigmund Goldner, c'est un Autrichien émigré aux États-Unis. C'est le premier cas d'un compositeur qui est, lui, d'origine juive. Mais à partir de 1973, on retrouve les aventures de Rabbi Jacob avec la musique de Vladimir Kosma, que tout le monde connaît, qui n'est pas juif. Et avec le personnage de Rabbi Jacob qui joue Louis de Funès magistralement, qui est devenu un classique. Ensuite, il y a en 1983, Yentl, le film basé sur le livre de Isaac Bashevis-Singer, qui a été adapté pour le cinéma par Barbara Streisand. Et le compositeur est Michel Legrand, encore un Français qui n'est pas juif, mais qui écrit cette musique absolument splendide. Elle n'est même pas chantée en hébreu, ni en yiddish, mais en anglais. Et cependant, l'esprit est complètement là. La liste de Schindler, que tout le monde connaît, qui date de 1993, un film de Steven Spielberg, qui raconte l'histoire d'Oscar Schindler, nommé juste parmi les nations. La musique est de John Williams, encore un compositeur qui a certainement beaucoup d'amis juifs et des musiciens qu'il connaît et qui s'est inspiré magistralement pour donner cette musique. Et il y a, voilà, on est toujours dans les passerelles, on est toujours dans l'anamorphose. Et le XXe siècle a cette particularité de donner un plus grand rapprochement entre les cultures et on est dans la fusion des styles où on retrouve les chassidiques, les klezmer, les yiddish, la musique synagogale, etc. Et voilà, c'est un vaste sujet.
Merci beaucoup Hector Sabot pour cette conversation musicale, riche, poétique et ludique. Bien évidemment, nous n'avons abordé qu'une petite partie de ce grand voyage au cœur des voies hébraïques et de leur anamorphose croisée. Je renvoie à votre ouvrage, passionnant, très clair et très pédagogique, « Histoire de voies hébraïques », sous-titré « Anamorphose musicale croisée », paru aux éditions EMS. Je signale aussi la sortie cette semaine de votre livre sur Astor Piazzolla, qui est le compositeur de notre générique qu'on est en train d'entendre aux éditions Abrazos, et votre participation au colloque Edmond Flegg avec un concert lecture et votre ensemble des polyphonies hébraïques de Strasbourg. Je signale que nous reparlerons d'Edmond Flegg et de ce colloque prochainement. Merci encore Hector Sabot.
Merci à vous Marc-Alain.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Stéphane Touvenin, à la réalisation Alexandra Malka, Coltouve, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.